Radio Chacun, grand témoin. Il s'appelle Charles Kabuya, juriste de son état et mécène culturel congolais, vient de publier un ouvrage sur le Congo dont le titre est Congo, terre d'enjeu de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Vous avez déjà peut-être entendu ce nom, peut-être pas, mais grand témoin va vous faire ce plaisir de vous faire découvrir aujourd'hui celui qu'on appelle Charles Kabuya. Merci Charles d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup Kevin, c'est moi qui vous remercie.
Vous allez bien?
Très bien, tant au pays, tout va bien.
Ok, avec vous dans cette émission, nous allons parler de vous, de votre personne, de votre profession, mais surtout de l'ouvrage que vous venez de publier sur le Congo. Je l'ai dit dans mon introduction, dont les titres est Congo, terre d'enjeu, de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Un ouvrage qui tombe vraiment à pic, il faut le dire, hein, par rapport aux 5 conteneurs. Ne m'en sommes pas encore là. On va y revenir hein, tout au long de l'émission, mais commençons d'abord par vous découvrir. Qui est Charles Kabuya?
Alors, ce n'est pas facile de parler de soi-même.
Bon, je vais vous aider quand même.
Je suis quelqu'un de très modeste par nature. Donc, bon, voilà, comme vous dites, je m'appelle Charles Kabuya, je suis congolais.
Vous êtes né où et quand, Charles Kabuya?
Moi, je suis né dans le Kassai, à Kala, mais je n'ai pas vécu là-bas. Très rapidement, mes parents sont partis, donc nous sommes retrouvés entre autres à Kinshasa, parce que mon père était fonctionnaire, on va dire, il travaillait à la banque centrale, il était responsable de succursale, donc on a été baladés un peu partout dans la République, et pour finalement poser les valises à Kinshasa quelques années plus tard.
Vous êtes né à Kananga, vous n'avez pas passé votre enfance là-bas?
Non.
Et c'est où que vous avez passé votre enfance?
Une grande partie à Kinshasa, l'autre partie en province, essentiellement dans le Kivu. J'ai passé quelques années de mon enfance, de ma jeunesse, on va dire, à Bukavu, puis à Goma. Donc, j'ai connu également la province orientale, le Katanga, et voilà quoi.
Et en grandissant, vous étiez quel genre d'enfant, Charles Kabuya?
Bon, un enfant assez atypique, dans le sens où j'étais quelqu'un qui réfléchissait beaucoup. J'étais souvent, on me disait que j'étais distrait, je me rappelle. À l'école, on me disait que j'étais distrait.
Vos enseignants qui vous disaient ça, ou vos collègues des classes?
Bon, en classe, je suivais quand même, hein. Mais d'une manière générale, j'étais quelqu'un qui réfléchissait souvent et j'avais tendance à être enfermé. Parfois, on me disait des choses, je savais pas écouter, j'étais dans mon monde intérieur. Par après, je me suis beaucoup plus intéressé à la lecture. C'est quelque chose qui m'a énormément passionné. Donc, j'avais toujours mon petit jardin secret. J'ai lu beaucoup. Je me rappelle d'ailleurs que ça a été un sujet de souvent de polémiques avec mes parents, parce qu'ils me disaient que je vivais au lieu d'étudier. C'est ça qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance, la lecture. C'était une passion pour l'époque. Et notamment, je m'intéressais également à tout ce qui est lecture de magazines, des revues. Mon père était abonné à l'époque à Jeune Afrique. J'ai guetté chaque livraison. Parce que j'avais besoin de lire, de connaître un peu l'actualité. J'étais très jeune quand j'étais...
Vous avez quel âge à peu près?
12-13 ans, je connaissais pratiquement tous les chefs d'État africains, des problèmes qui se posaient à l'époque, des fronts Polisario, je savais ce que c'était. Pour l'époque, et pour mon âge aussi, c'était un peu ça mon enfance.
Quel est le plus beau souvenir que vous gardez de cette enfance, Charles?
Bon, c'était la belle époque du Congo quand même, hein. Si je me rappelle... chaque grande vacances, on revenait à Kinshasa avec les parents et c'était une ville magique. C'était une
la
ville lumière,
hein,
comme on disait. Donc dans les années 70, quand on revenait à Kinshasa, c'était vraiment pour nous un grand moment. Et c'était des belles choses. On allait en Célé, on allait à Kinkolé. C'était merveilleux cette période-là.
Vous avez quitté très jeune le pays pour aller vivre en Europe. Pour quelle raison?
Ben bon, lorsque j'ai eu mon diplôme d'État, j'ai passé une année académique à l'université de Kinshasa, à la faculté de droit. Mais c'était une année où il y a eu des problèmes, notamment une révolte des étudiants et un mouvement de grève et tout ça. Donc ça a été réprimé. J'ai des amis qui avaient été arrêtés, même envoyés dans des étant militaire. Donc mon père, Dieu merci pour moi, avait la possibilité de me faire voyager pour aller faire des études à l'étranger. C'est comme ça que j'ai atterri à Paris, en France, à 19 ans, et pour poursuivre mes études. Et à la fin de mes études, j'ai poursuivi une carrière là-bas jusqu'à très récemment.
Vous avez une licence en droit de l'université de Paris 13?
Oui, licence et une maîtrise. Ensuite, je suis allé à l'Institut du droit de l'économie internationale et du développement, toujours à Paris. Et là, j'ai fait un troisième cycle qui a été sanctionné par un diplôme de spécialisation en droit du commerce international et en économie du développement.
C'est un DSS, on peut dire?
Voilà, DSS, oui.
Et la thèse, c'est pourquoi?
Je m'étais inscrit en thèse, et vous n'allez pas me croire, j'étais stagiaire dans un cabinet d'avocats. Et je n'avais pas beaucoup de temps pour préparer mon admission, parce qu'il fallait passer une espèce de test. Donc je l'ai passé comme ça à la volée, et je n'ai pas cru. J'ai dit bon, je le fais comme ça. Et,
sans conviction,
voilà. Et puis, je ne suis pas intéressé au résultat. J'ai continué mon stage chez l'avocat. Un jour, j'avais besoin d'un document. Je suis retourné à l'université. J'ai vu une liste qui était affichée, qui était un peu jaunie. Tellement elle était affichée depuis longtemps.
Et
après, les noms des gens qui étaient alignés pour faire leur thèse. Et j'ai regardé la liste.
Et votre nom figurait sur la liste.
Si j'ai trouvé au secrétariat, on m'a dit mais c'est trop tard.
Il faut
tout reprendre.
C'était combien de temps après?
Auprès de 5 mois. Donc, j'ai dit non, je ne vais pas remettre ça, donc je me suis tourné.
Voilà, Charles Kabuya, vous êtes aussi un mécène hein, de la culture congolaise. On vous entend beaucoup trop dans les chansons des musiciens, ce soir.
Beaucoup trop, vous avez dit.
C'est exagéré, beaucoup trop. En tout cas, plusieurs fois, on a entendu le nom de Charles Kabuya. Je ne sais pas si Kofi, c'est Jubé, Ouira, Fali, etc. Parlez un peu de votre relation avec le monde musical.
En fait, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, c'est vraiment tout ça mon enfance. C'est-à-dire que j'avais un oncle qui était musicien et qui m'a initié à la guitare. Donc je jouais de la guitare et c'est ainsi que je me suis beaucoup intéressé à la musique. Je faisais ma petite composition, ma petite chanson, ainsi de suite. Donc la musique, c'est quelque chose que je porte en moi. À la fin des années 80 et au début des années 90, beaucoup de groupes congolais venaient en Europe et à l'époque, il n'y avait pas encore une communauté organisée, il n'y avait pas encore de structure d'accueil et ils recherchaient des gens qui pouvaient les aider, leur ouvrir des portes, ainsi de suite. Et chez moi, ils ont trouvé une oreille attentive parce que bon, j'aime la musique. C'est ainsi que j'ai commencé à les aider. De façon à ce qu'ils trouvent des structures d'accueil et qu'ils puissent enregistrer, qu'ils puissent produire, ainsi de suite. Donc, en jouant cette relation-là, j'ai eu des rapports assez privilégiés avec les musiciens qui sont très reconnaissants parce que j'ai toujours été présent, j'ai toujours répondu à leur appel. Voilà un peu le pourquoi il y a eu cette relation privilégiée.
Ah, heureusement que vous avez corrigé. J'allais vous dire, il y a eu, c'est le passé, parce que maintenant, il n'y a plus...
Aujourd'hui, il y a moins de temps, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de structures. Il y a des producteurs, il y a tout ça. Donc, bien sûr, quand ils font des passages, en général, ils me passent un coup de fil, on discute, je leur donne des conseils. Je fais toujours partie de la famille, même si j'aime beaucoup moins de temps aujourd'hui.
Et quand on vous cite comme ça dans les chansons des musiciens, ça vous fait quoi? C'est moyennant quelque chose ou ils le font par reconnaissance pour ce que vous avez fait pour eux quand ils sont arrivés, par exemple, en Europe?
Pour eux, beaucoup plus important que de pouvoir donner quelque chose en échange. Bon, je ne suis pas dans cette démarche-là. Je pense d'ailleurs que la plupart d'entre eux seraient très gênés de me demander quelque chose en échange. Ils le font spontanément. Et d'ailleurs, lorsqu'ils sont dans le besoin, quelquefois, ils ont toujours frappé à ma porte. Donc, ils savent que on a un vieux, c'est qui on peut compter. Donc, c'est un peu ça, quoi. Bon, mais il n'y a pas ce type de relation de monnayer et tout ça. Non, pas du tout.
Voilà. Charles, comment es-tu marié?
Je suis marié, je suis père de 4 enfants, dont des jumeaux.
Et vous êtes chambouille.
Chambouille, t'as comment pas ça, tout ce qu'on veut, quoi.
Radio Catholique, grand témoin. Charles Kabuya, juriste de son état et mécène de la culture congolaise, vient de publier un ouvrage sur le Congo dont le titre est Congo, terme en jeu, de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Et celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui, parlant de votre parcours. Après vos études, vous avez débuté votre carrière comme collaborateur dans un cabinet d'avocats parisien.
Oui, tout à fait, oui. C'était tout à fait naturel, hein, parce que après des études de droit, je m'ai destiné à une carrière juridique. Donc, j'étais recruté comme collaborateur et c'était en même temps une formation afin que je puisse passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et finalement, je n'ai pas passé le certificat d'aptitude parce que j'ai eu une opportunité d'entrer dans le secteur privé. On m'a proposé de travailler dans une entreprise. Finalement, après 2 années dans l'entreprise, j'en suis devenu le dirigeant.
C'était une entreprise qui s'occupait de quoi?
C'était une entreprise qui faisait du conseil en sécurité privée, c'est-à-dire tout ce qui est système de contrôle d'accès, d'installation d'alarme, c'est-à-dire la sécurité électronique. Ensuite, après avoir acquis une certaine expérience, j'ai eu à créer ma propre entreprise dans le même domaine. Donc, je suis resté pendant 15 ans chef d'entreprise.
En France.
J'ai énormément employé des compatriotes. Hein. J'ai employé jusqu'à 400 Congolais dans mes entreprises.
Elle existe toujours ou bien elle a disparu?
Au début de 2007, j'ai cédé mes parts dans la dernière entreprise que j'ai dirigée pour entamer une nouvelle carrière de consultant qui m'intéressait beaucoup plus parce que pendant 15 ans, ce métier n'était pas de tout repos. Je commençais très tôt, je finissais très tard et ça m'a beaucoup usé. Donc, je me suis associé dans un cabinet de consulting,
juridique
et commercial. D'ailleurs, je suis en train de mettre en place un cabinet de consulting comme ça. Voilà ma profession actuelle.
Vous dirigez aussi l'association du Mémorial des Amis du Congo. De quoi s'agit-il?
Alors, si vous lisez mon ouvrage, vous verrez que j'ai beaucoup souligné le fait que dans notre histoire tragique, notamment sous la période de l'État indépendant du Congo, donc sous Léopold II, ils ont connu une sorte d'esclavage. Ça a été d'une férocité inimaginable. Et au cours de cette période, beaucoup de gens se sont battus pour les droits des Congolais. Ces gens sont ignorés, inconnus pour la plupart. Donc pour remédier à cela, à ce devoir de mémoire, ce devoir historique, donc j'ai initié donc cette association en faveur de l'émancipation des Congolais.
L'association existe en France?
L'association a été créée en France, mais c'est une association en vocation internationale. Et le but ultime, c'est d'arriver à proposer aux autorités de notre pays l'érection d'un mémorial pour rendre hommage à toutes ces personnes.
Charles Kabuya, en 2006, vous avez été candidat indépendant aux élections législatives à Kinshasa. Et malheureusement pour vous, ça n'a pas marché.
Oui, je n'ai pas été élu, hein, s'il faut. Je pense qu'il y a des gens élus et d'autres battus.
Non, mais vous vous espériez être élu, vous qui vivez en Europe et revenir ici parce qu'il y a des élections, vous vous dites non, je vais tenter ma chance.
Pourquoi pas? Je suis Congolais, je m'intéresse à mon pays, j'ai des choses à dire, j'ai des propositions à faire. C'est ainsi que j'ai été persuadé, on va dire, par mes amis parce qu'on a toujours débattu ensemble. Alors, ils ont constaté que je mettais beaucoup d'idées, de propositions. Ce sont des amis ici, à Kinshasa.
Pourquoi tu n'essayes pas?
Pourquoi tu n'essayes pas? Donc, je pense que je me suis d'ailleurs inscrit le dernier jour du délai qui était imparti. Tellement mon hésitation était grande. Et donc, j'ai fait cette campagne qui a été pour moi une révélation, qui a été une expérience humaine. C'est pourquoi je ne regrette pas, malgré que je n'ai pas été élu, je ne le regrette pas du tout parce que ça m'a permis de rencontrer les gens, de parler, d'aller au fond des choses. C'est à partir de là d'ailleurs que j'ai commencé à engager une réflexion sur la situation du pays pour comprendre pourquoi on était dans une situation aussi désespérée, parfois même tragique pour beaucoup de Congolais. Une détresse qui m'a beaucoup marqué. C'est ainsi que, après cette réflexion, j'ai compris qu'il y avait une relation de cause à effet entre le passé et la situation actuelle. Donc, je suis remonté aussi loin que possible dans le passé pour comprendre comment ce pays a été géré. Mais pourquoi je suis parti jusqu'à aujourd'hui aux migrations des Bantous sur ces territoires. Ensuite, à l'arrivée des premiers Européens et des Portugais.
C'est de ça que vous parlez dans votre ouvrage, Charles Kabuya.
De toute l'histoire. toute l'histoire. Bon, l'histoire du Congo a été écrite en grande partie par des historiens d'origine européenne. Notamment, il y a une grande école belge de l'histoire de notre pays. Très peu de Congolais, au regard de l'immensité de notre histoire, au regard de l'immensité de notre pays, ont écrit. Je salue en particulier le professeur Ndaiwel, qui a écrit un ouvrage qui reste un ouvrage de référence sur l'histoire de notre pays. Donc moi, n'étant pas historien, en découvrant, j'ai vu des choses qui n'étaient pas mises en valeur. Et je me suis rendu compte qu'on a oublié beaucoup de faits qui nous intéressent, nous les Congolais, que c'est ça, il fallait les mettre en valeur. C'est le but de la démarche que j'ai suivie dans cet ouvrage.
Et c'est votre échec qui vous a motivé à pouvoir rédiger cet ouvrage?
Moi, je ne parle pas de ça, quand j'ai vu, c'est une expérience.
Ouais, expérience, mais un échec quand même.
Oui.
Vous avez été élu, vous alliez écrire, rédiger cet ouvrage, cher Gabriel. Sincèrement, pardon.
J'allais avoir encore mieux, j'allais avoir une tribune pour parler vraiment de nos problèmes, de tout ce que j'ai évoqué dans ce livre. J'allais avoir une tribune. Je pense que quand j'ai écrit ce livre, c'était pour un peu revenir sur un tourment que j'ai eu au cours de cette campagne, en voyant beaucoup plus profondément la détresse de mes concitoyens.
On a déjà commencé à parler de l'ouvrage. Le titre de l'ouvrage, Congo, terre d'enjeux, de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Et sur la couverture, je vois, il y a la photo de Lumumba. Pourquoi lui sur votre couverture?
Parce que là, c'est quand même le symbole de cette lutte pour l'émancipation. Il a payé de sa vie.
Il n'est pas le seul.
Oui, c'est le plus emblématique parce que c'est lui qui a été vraiment en première ligne. Il a été le tout premier ministre, c'est-à-dire chef du gouvernement, le premier gouvernement congolais indépendant. À ce titre, il est la figure emblématique de cette lutte pour l'indépendance.
Dans cet ouvrage, vous parlez de la conquête coloniale, des turbulences qu'a connues le pays après son indépendance. Et du fait que la population, le peuple congolais ne bénéficie pas de ces richesses.
Oui, oui, oui. Ça, je l'ai dit en particulier lorsque j'ai constaté au cours de la campagne que la détresse était très profonde, alors que paradoxalement, on est un pays fabuleusement riche. Pourquoi cette richesse ne nous a jamais profité? Au départ, donc, l'exploitation, la première exploitation économique de ce territoire a été faite sous le pôle 2. C'était une exploitation au bénéfice du roi et on va dire de la Belgique. Lorsque la Belgique a pris d'ailleurs la relève, ce sont les compagnies belges, les compagnies financières qui ont investi dans ce pays, qui ont exploité le pays, ce n'était pas au bénéfice des Congolais. Ensuite, il y a eu l'indépendance et très vite, l'espoir a été brisé parce que la mouvance nationaliste a été défaite et les tentatives de rébellion n'ont pas réussi. Et le pays a toujours vécu dans une sorte de mainmise extérieure. Et sans compter le fait aussi que le système qui a succédé, finalement, qui a géré le pays pendant 32 ans, est un système qui est un système aussi de prédation parce que il n'y avait pas de démocratie, il était assis sur le favoritisme des clientélistes. Donc, cela n'a pas non plus bénéficié au peuple. Et donc, c'est ce constat que je fais que les richesses n'ont jamais profité à ce pays.
Vous avez parlé aussi de l'échec de la transition dans ce pays.
La toute première transition, effectivement, avec la Conférence nationale souveraine, dont on sait que les résolutions ont avorté parce que le pouvoir n'avait pas cédé. Il était question de passer à travers cette transition d'une autocratie à une démocratie, ce qui n'a pas été vraiment le cas.
Charles Kabuyas, l'année 2010, c'est l'année du cinquantenaire. Il y a beaucoup des pays africains qui fêtent leur 50e anniversaire d'indépendance, la RDC y compris. Il y a des festivités qui sont organisées pour ces cinquantenaires et vous voulez un ouvrage de la conquête coloniale à la quête d'un destin. Est-ce qu'on peut dire que la RDC est en quête d'un destin? On a déjà eu un destin, on a un destin?
Non, on est toujours en quête d'un destin. Il y a un chemin qui a été parcouru parce que on a eu des élections pas toujours très parfaites, hein. Il y a toujours des imperfections. Moi, je me situe dans une attitude de constructive. Je pense que le pays a beaucoup souffert. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. Il faut être dans une démarche constructive. de façon à ce que autant de forces possibles soient unies pour cette bataille du développement. Maintenant, il faut que ceux qui sont au pouvoir soient capables de capitaliser l'effort, maximiser nos ressources et aller dans la bonne direction.
Et pour vous, 50 ans après
On a fait pas mal de chemin, nous qui n'avions pas d'universitaires, pratiquement pas. Aujourd'hui, on a un nombre très élevé d'universitaires congolais, même si souvent les niveaux ne suivent pas, parce que la formation n'est pas faite dans les conditions idéales, il n'y a pas suffisamment de moyens. Donc on déplore tous les niveaux et la qualité d'enseignement et par ricochet les niveaux et la qualité des diplômes. Mais cela dit, on a fait des grandes avancées sur ce plan-là. Les Congolais aujourd'hui prennent leur destin en main et comme je le disais, malgré les péripéties difficiles, malgré tout ce que le pays a connu, des tragédies, la volonté de démembrer le pays, nous restons unis, ça c'est notre force. Nous avons une certaine fierté, c'est ça qui fait notre signe particulier d'ailleurs. Hein. On nous reproche d'être trop fiers même. Voilà, donc ça me laisse optimiste, comme je l'ai dit au début de notre entretien.
Chefs d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche.
Charles Kabuya, comment vous passez vos moments de détente?
Je n'ai pas beaucoup de loisirs parce que je suis en pleine campagne de promotion pour le livre. Mais
quand vous avez un peu de temps de loisirs,
je sors de la ville, je vais vers Kinkolé, je vais vers Maluku, derrière là-bas. Donc j'aime bien sortir de la ville un peu. Très prochainement, j'ai très envie d'aller vers le Bas-Congo, visiter un peu. Je pense aussi aller du côté du plateau de Bateke. Voilà quoi.
Je sais que vous aimez la musique, mais c'est laquelle que vous appréciez le plus, Charles Kabuya?
Je suis assez éclectique dans mes choix. J'écoute pratiquement toute la musique congolaise, mais je préfère de loin la musique d'il y a quelques années. Donc la musique de Rochereau, notamment Bella Bella, assez mélodieuse, que j'écoute pour me détendre. J'aime aussi la musique actuelle. Je suis un peu trop attaché à ce monde-là. J'apprécie énormément, évidemment, Koffi Olomide, qui a eu une production, on ne se rend pas compte, il a une production incroyable, hein, il a fait énormément d'albums, énormément de chansons, de belles chansons, et Tapa Wemba, que j'apprécie en particulier, parce que lors de mon adolescence, c'était l'époque où son groupe Viva la Musica était au top, donc je garde des souvenirs assez vifs de cette période, et toute la nouvelle génération, la génération reggae, que j'ai énormément côtoyé, que j'ai aidé énormément, Werason Djibé, Adolphe, Blaise, Alain Makaba, Didier Massera, ce sont des jeunes gens qui ont montré beaucoup de talent, qui ont pu apporter quelque chose de nouveau dans ce paysage musical-là.
Si on vous demandait les titres d'une chanson que vous aimez bien écouter quand vous êtes à la maison, le choix sera peut-être difficile pour vous, mais faites un effort quand même, un titre d'une chanson.
Voilà, j'aime écouter la chanson Maman de Papa Wemba. C'est une chanson très affectueuse, un saint tube, parce que quelles que soient les années, on l'écoute, on est toujours aimé. Je pense que c'est un exemple. Il y en a d'autres, hein, mais celui qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est celui-là.
Para nada, para nada. la maman. Elle est fière, elle ne connaît pas ma tête, la 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 la. Maman, c'est que la chica, ça la va mourir. Et la fête, on va qui s'en va pour toi, maman. J'ai envie de la vie, la lune, c'est pas.
Kaboya, nous sommes à la fin de notre entretien. En 2006, ça n'a pas marché pour vous et vos ambitions pour 2011. Vous allez retenter l'expérience et la députation.
Vous allez dire que j'ai déjà donné. Mais bon, pour, le, enfants, je me réserve encore. Je sais que ce n'est plus très loin, on est tout proche, mais je ne sais pas, parce que être candidat indépendant, c'est assez handicapant. Donc, je ne sais pas encore. Je verrai d'ici 2-3 mois si je vais remettre les couverts.
Par rapport à votre ouvrage, est-ce qu'on les retrouve déjà dans les librairies en RDC?
Très bientôt, parce qu'on aura d'ici une dizaine de jours la présentation sur ces livres. Et aussitôt, ça va être mis en vente dans beaucoup de surfaces de vente, les supermarchés, les librairies. Donc, avant la fin du mois, il sera déjà en vente.
Merci beaucoup, Charles.
Merci, Télia.
C'est la fin de cette émission. Je recevais pour vous Charles Kabuya, juriste des fonds d'État et mécène de la culture congolaise. Il vient de publier un ouvrage sur le Congo dont le titre est Congo, terre d'enjeu, dès la conquête coloniale à laquelle d'un destin. Kéline Couture vous a présenté cette émission. La technique était assurée par Edu Marquis. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokati.net. Bon, tous les programmes sur la fréquence de la paix.